Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka. Nous parlons de la flambée des prix de denrées alimentaires et surtout des produits de première nécessité tels que l'huile, le savon, le sel et le lait. Selon les consommateurs, chaque jour, les vendeurs augmentent les prix. À leur gré, cette pratique perdure et inquiète plus un, alors que pour les fonctionnaires et agents de l'État, le salaire n'augmente pas et il leur est difficile de joindre les debouts. Question Patara du jour, que fait concrètement le ministère du Commerce pour la réglementation et le contrôle des prix? Le gouvernement est-il au courant de cette pratique? Si oui, pourquoi ne communique-t-il pas sur cette pratique? Et pour en débattre, le plateau Patara reçoit Chantal Toabina, coordinatrice de la plateforme de la société civile centrafricaine. Madame, bonjour.
Bonjour Armando.
Bonjour aussi à vous, Monsieur Moïse Paetilettre.
Bonjour monsieur.
Voilà, ici vous êtes chef service de la concurrence, de prix et de la consommation au ministère du Commerce. Lazare Kianzi, économiste de formation et leader d'opinion. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando.
Et Karl Black, bonjour.
Bonjour Armando.
Analyste sociopolitique, Armando Nguindi, c'est moi. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
D'entrée du débat, je vous invite à suivre les plaintes des consommateurs sur la hausse des prix de denrées alimentaires à Bangui. Les Banguissois demandent au gouvernement de leur trouver des solutions. Reportage signé Prudence Gisèle Huguet.
Flora est venue au marché de kilomètre 5 pour faire des provisions.
Je suis venue au kilomètre 5 pour faire mes provisions. Auparavant, les prix étaient raisonnables. Mais aujourd'hui, tout est devenu cher. Avant, nous achetions un litre d'huile à 800 francs. Mais aujourd'hui, c'est 1600. Un litre et demi coûte 2800 francs.
800. Juste à côté, Françoise est affrontée à ce même problème de la hausse des prix.
Je viens acheter un demi-sac du sucre. Nous achetions cela à 21 000. Aujourd'hui, c'est à 23 000 francs. Toutes les marchandises sont en hausse. Nous ne savons quoi faire.
Savon, sucre, sel, riz, la hausse de prix est importante. Certains prix ont même doublé. C'est l'exemple du litre d'huile qui est passé de 800 il y a deux mois à 1600 francs aujourd'hui. Même les revendeurs se plaignent. Marcel Doubalé, boutiquier au quartier Walimba.
Sur le marché, tous les prix commencent à s'augmenter. Un exemple sur un sac de sucre, on avait payé ça à 45 000 francs. Mais présentement sur le terrain, le prix a augmenté jusqu'à 42 000 francs. Le sac de farine, c'est à 25 000, 27 000 en allant. Hier même, on avait payé ça à 30 000 piles. Mais aujourd'hui, c'est à 32 000. Le bidon d'huile maintenant sur le terrain, c'est à 40 000 francs. Alors que c'était à 27 000 francs comme ça. Les grossistes augmentent le prix, donc chacun fait ce qu'il veut.
Fred, grossiste d'alimentation au kilomètre 5, avance une raison.
Pour dédouaner plein camion, ça doit faire même 8 millions. Ça cause beaucoup de problèmes. Sucaf, ici, c'est trop cher par rapport aux autres pays. Mais ils empêchent chez nous d'aller acheter ailleurs.
Le ministère du Commerce est appelé à réglementer le secteur. Mariam, une consommatrice.
Le constat est amer. On ne vit pas bien en République centrafricaine. Il faudrait que le gouvernement veille sur les prix de marchandises sur le marché, parce que c'est trop cher.
Zachary Pissaré, directeur de la concurrence et de la consommation au ministère du Commerce, répond.
Il y a un comité d'homologation de prix qui doit statuer et fixer le prix du produit à l'opérateur économique qui est tenu de respecter le prix. Le ministre du Commerce a diligenté une mission sur le terrain juste pour vérifier la qualité des produits qui sont mis à la consommation. Les prix également, il peut être acceptable par le client.
Selon le ministère du Commerce, cette augmentation des prix est aussi due au coût élevé du transport. Les commerçants évoquent, eux, les tracasseries et les rackets.
Merci Prudence Gisèle Huguet. Première question à vous, Madame Chantal Toabina. Constatez-vous aussi cette flambée des prix sur les marchés?
Oui, Monsieur Armando, puisque je suis consommatrice, c'est un réel problème. Ce matin même, j'ai demandé le prix d'un litre d'huile, c'est à 1800. Donc, au jour le jour, les prix ne font qu'augmenter. Voilà.
Et cela vous inquiète?
Ça m'inquiète, puisque le pouvoir d'achat, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est un réel problème.
Oui, monsieur Kianzi.
Oui, Armando, c'est avec beaucoup de désolation que nous suivons
ces flambées de prix sur le marché. Non seulement les produits de première nécessité, mais aussi d'autres produits tels que même, comment est-ce qu'on appelle ?
Les produits locaux,
champêtres. Même les produits champêtres, tout, le prix a augmenté un peu partout. On se demande si est-ce qu'il y a un organe qui doit veiller sur ça. On se demande si est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ce secteur. Et on se pose beaucoup de questions. Et tout porte à croire que nous sommes dans un pays de laisser aller, où tout le monde fait ce qu'il veut. Le producteur, il vend comme il veut. Le commerçant, il fait ce qu'il veut. Chacun vend comme il veut au prix que bon lui semble. Et il n'y a aucun organe de régulation, aucun organe de contrôle. Et chacun fait ce qu'il veut. Et tout ça là, c'est au dépourvu du consommateur. Le consommateur qui a un pouvoir d'achat extrêmement faible se retrouve à des flambées de prix que nous ne pouvons même pas imaginer. Et lorsqu'on essaie de sillonner pour essayer de rentrer un peu en profondeur pour comprendre les raisons, mais vous n'allez même pas trouver les raisons. Vous n'allez même pas trouver les raisons. Et c'est lorsqu'on va à peu près essayer de toucher un peu en profondeur qu'on va comprendre que peut-être il y a aussi il y a les raquettes, il y a tout ça. Il y a un certain nombre il y a un certain comportement que font certains compatriotes qui jouent sur le prix et le vendeur, le commerçant. Quand lui, il vend, il ne peut pas vendre en perte. Il veut toujours gagner quelque chose. Même chose pour les agriculteurs. Là, j'étais vraiment désolé à Bozoum. Là, je reviens de Bozoum il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 2 semaines, où on a échangé avec les commerçants de Bozoum. Ils nous ont expliqué, les commerçants, nous on a rencontré presque tous les groupes de commerçants, hein, ceux qui vendent des produits manufacturés qui viennent du Cameroun et ceux qui vendent des produits champêtres et autres. Mais même un coq où tu passes sur la barrière, tu dois payer. Un coq, tu dois dédouaner. Je vous assure, ce qu'on a entendu, c'est horrible. C'est horrible. Ce qui porte à croire que nous ne sommes pas dans un état, nous sommes dans une jungle où chacun fait ce qu'il veut, vend comme il veut, au prix que bon lui semble, et tout ça au dépourvu du consommateur.
Monsieur Karl Blaguet.
Ouais, je vous remercie, Armando. Le spectacle, disons le décor est vraiment désolant. Tout le monde ici est consommateur. Effectivement, nous avons tous constaté une inflation galopante, la hausse des prix, surtout des produits de première nécessité. C'est vrai, il y a un contexte international sur lequel certaines personnes pourraient se baser par rapport à la guerre en Ukraine ou le prix du blé, parce que vous savez que la Russie et l'Ukraine sont des exportateurs à plus de 40% de blé. Avec le blé, il y a la farine de blé, on fait le pain, on fait la phosphatine, on fait blédine, la bouillie pour les enfants. Bref, ça ce sont les premières conséquences à court terme, parce que ces conséquences vont impacter ici chez nous à long terme. Au niveau national, en tant que pays enclavé, vous-même vous savez qu'au niveau commercial, nous avons une nébuleuse ici. Vous avez au moins 70% des importateurs, des commerçants importateurs qui sont des étrangers, notamment la communauté libanaise, qui peuvent spéculer à tout moment sur les prix, qui ont du stock, même quand c'est de la farine périmée. Et je vous assure que d'ici 1-2 mois, ils vont mettre sur le marché de la farine déjà périmée. Alors, tant que nos responsables, surtout au niveau du département du commerce, PME, PMI et autres, douanes, impôts, ne feront pas preuve justement de patriotisme, ceux-là seront toujours dans la poche de ces commerçants libanais. Demain, on peut dire que non, le litre d'huile sera à 5000 francs. Il n'y a pas de réaction. J'aurais aimé qu'il y ait le président de l'Association des consommateurs centrafricains sur ce plateau, mais je pense que Mme Toabené est là aussi, et avec d'autres frères, mais c'est vraiment révoltant. Nous sommes dans un système de mafia, mon frère Armando, qui me dépasse même. Nous avons un ministère du commerce, nous avons un service du contrôle des prix, du contrôle de la concurrence. Du jour au lendemain, on peut augmenter le prix de n'importe quel produit de première nécessité, sans pour autant qu'il y ait réaction du gouvernement. Non, en tant que Centrafricain, en tant que consommateur, et je me mets à la place des millions de Centrafricains qui consomment, qui souffrent. C'est pas seulement la baisse du pouvoir d'achat, mais les Centrafricains sont endettés. Calculez le taux de pourcentage d'endettement. Beaucoup de nos frères centrafricains sont endettés. Ils vivent au jour le jour, le pouvoir d'achat s'est effrité, mais ils sont endettés. Si bien que certains, quand ils perçoivent leur misérable salaire, mais tout part justement dans le remboursement des dettes. Et c'est comme Sisyphe, hein, dans la mythologie grecque. Hein. Alors, on retombe toujours dans le groupe, dans le même cycle. C'est extrêmement grave et là je jette la pierre au gouvernement Armando.
Nous allons écouter le représentant du ministère du Commerce ici, monsieur Paitilet, sur cette question. Vous aussi, est-ce que vous constatez la flambée ou l'inflation des prix sur les marchés?
Merci, je remercie la radio de Kiluka d'avoir monsieur Armando, excusez-moi, de m'avoir invité pour prendre part à ce débat citoyen, que je le dis parce que nous sommes tous consommateurs. Personne ici ne peut dire qu'il ne subit pas les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre. Alors si on remonte dans l'histoire, je crois que depuis 14 ans, cette crise a des répercussions énormes sur la vie de la population. La crise de 2008 qu'on a connue avec la hausse de prix de pétrole et des produits agricoles, nous aussi, comme nous sommes dans le système international, nous faisons le commerce, nous participons aussi au commerce international. Ces conséquences ont des incidences sur la vie de la population centrafricaine. C'est pourquoi en 2008, le gouvernement a pris le décret 08-204 instituant une surveillance des produits de première nécessité. Donc ce décret a été signé avec au moins une trentaine de produits qui sont soumis à surveillance. Je crois que je ne peux pas revenir là-dessus, peut-être si les gens le veulent. Après, ils pourront voir, nous avons l'huile, nous avons le lait, nous avons le sucre, le sel, le riz, la farine de blé et bien d'autres produits, au moins une trentaine de produits. Par rapport à ça, le gouvernement a pris ce décret-là et le ministre a pris une décision de créer un comité interministériel d'homologation de prix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous importez ces produits, vous êtes tenu d'informer le ministère avec toutes les charges que vous aviez encourues pour arriver depuis l'usine, pour arriver à Bangui. Et vous savez très bien que nous commerçons plus, nous importons plus avec l'Union européenne, avec les pays de l'Asie. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons, le gouvernement continue à faire l'homologation de prix. Qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis 2013, les plus grandes entreprises qui importaient ces produits de grande consommation ont abandonné le secteur. Pourquoi ? Par rapport à une concurrence déloyale. Et vous savez que la majorité, il y a des fonctionnaires, je ne peux pas le lier, qui sont des commerçants, qui utilisent les noms de leurs sœurs, de leurs frères, de leurs épouses pour faire le commerce. Et aujourd'hui, tout retombe sur le ministère du Commerce. C'est bien sûr, vous avez raison de le dire, mais c'est un problème interministériel. C'est pourquoi même en 2012, le gouvernement avait pris un décret pour créer ce qu'on appelle les barrières légales, les postes de contrôle de Bangui sur toute l'étendue du territoire. On a au moins 93 barrières qui ont été créées. Et toutes les entités qui sont au niveau de ces barrières ont des missions spécifiques. Et il y a un comité qui devait être dirigé par le ministère de la Défense parce que vous savez que sur les barrières, nous avons les hommes de tenue, je ne peux pas dire seulement les FACA, nous avons les gendarmes, nous avons les policiers, nous avons les douaniers, nous avons les agents des eaux forêts. Vous avez aussi certains syndicats qui sont sur les barrières, les transporteurs. Donc, c'est un problème général qui devait être géré au niveau interministériel pour essayer de juguler la crise. Je crois qu'on va rentrer dans le débat et on va échanger. Oui,
on est déjà même dans le débat. Dans ce reportage, un praticien de petit commerce parle de l'absence du gouvernement ou du moins des contrôleurs de commerce. C'est qu'il laisse un libre champ aux vendeurs de faire ce qu'ils veulent, de pratiquer le prix comme ils veulent. Peut-on dire que votre ministère, monsieur du commerce, n'existe pas ou bien n'existe que de nom?
Je voulais revenir là-dessus parce que depuis 1992, le gouvernement a libéralisé le commerce. Donc, chaque importateur, chaque commerçant importe comme il veut et il fixe son prix. C'est par le gouvernement.
Il fixe son prix selon sa propre gré.
Mais en cas de crise, c'est en ce moment que le gouvernement peut intervenir pour juguler la crise ou bien prendre des décisions pour, par exemple, pour bloquer les prix. Bloquer les prix, c'est dit dans le code de commerce qui date de le décret, la loi numéro 16-006 du 30 décembre 2016, donne le pouvoir au ministre du Commerce, de bloquer le prix en cas de crise. Mais vous savez, aujourd'hui, comme je le dis, on n'a pas de stock de sécurité. Les grands importateurs, comme je le disais, qui pouvaient importer à peu près 100 000 tonnes dans un mois, 200 000 tonnes, aujourd'hui, ils ont abandonné et ils sont maintenant dans le secteur de transformation de l'industrie, dans le domaine de l'industrie. C'est pourquoi nous n'avons pas assez d'importateurs qui ont des stocks de sécurité. C'est pourquoi même en 2012, l'ancien ministre avait initié un projet de loi pour essayer de créer une société qu'on appelait à l'époque fonds de régulation et d'approvisionnement de produits de grande consommation. Vous savez que dans les grands pays même du monde, même s'ils ont tous les moyens possibles pour juguler les crises, mais ils ont des stocks de sécurité. C'est un problème du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit prendre cette responsabilité. Aujourd'hui, nous avons un seul corridor qui nous rapporte plus. Peut-être le second, c'est le Cameroun, vers le Cameroun. Aujourd'hui, avec le Congo-Brazza. Mais si on avait la possibilité de multiplier aussi nos canaux d'importation, ça pourrait nous aider. Mais au cas où il y aurait un problème qu'on ne souhaite pas au Cameroun, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, c'est la grande question.
Je vous reviens. Nous qui vous posons cette question.
Oui, monsieur Blaguet, vous voulez réagir?
Oui, oui. Tout à l'heure, le représentant du ministère du Commerce a dit quelque chose qui m'a fait sursauter. Il a dit, je répète, hein, chaque commerçant importateur peut fixer ses prix de sa propre volonté. Non, je m'emporte. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Il y a des barèmes au niveau de la douane, au niveau des impôts et au niveau même du ministère du Commerce. Comment pouvez-vous affirmer que chaque commerçant importateur peut fixer les prix des produits à son gré? C'est cette préoccupation qui me dérange un peu.
Je reviens sur ça, je dis c'est la loi numéro 16-006, c'est pour moi qu'il l'a inventée, à son article 4, qui dit que toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, est libre d'entreprendre une activité commerciale en République centrafricaine sous réserve du respect du principe de la réciprocité des lois et règlements en vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun fixe le prix. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, nous sommes dans la concurrence.
Non, c'est très ambigu. C'est très ambigu. Nous sommes dans une république.
C'est pas ambigu.
Nous avons un ministère du Commerce et nous avons un servile du contrôle des prix et de la concurrence. C'est pas n'importe quel commerçant qui peut se lever et fixer le prix à son goût.
Finalement, je ne serai plus dans une république. Voilà. Parce que lorsque les secteurs ne sont pas réglementés, lorsque les prix ne sont pas réglementés, mais qui va défendre le consommateur? Qui va défendre la cause du consommateur? Qui a un faible pouvoir d'achat, qui est surendetté et qui subit
mais monsieur Patilet vous présente le
il y a le décret,
voilà,
ici.
le décret et c'est la réalité actuelle.
C'est ça qui provoque cette situation, puisque
le champ est libre
sous surveillance.
Oui, mais là,
je sais pas si vous n'avez pas bien compris.
Je vous comprends bien, monsieur, mais il faut attaquer cette loi qui donne la libre qui donne droit à tout un chacun de fixer un prix à sa tête aujourd'hui. Donc un commerçant peut se lever et fixer la bouteille d'huile à 5 000.
Non,
et c'est son droit.
Je n'ai pas dit ça, madame. L'huile est sous surveillance.
Okay.
Donc, il y a un comité interministériel qui est là avec les agents des autres ministères, tels que la douane est représentée, les impôts sont représentés.
Et quels sont les prix que vous ne surveillez pas, que quelqu'un
On surveille les prix.
Les barèmes, oui.
Je vous dis que il y a une structure de prix. Quand le comité décide, il fixe le prix, le directeur de cabinet, qui est le président du comité ministériel, interministériel, signe. Et maintenant, on nous donne ces prix-là. Et c'est à nous maintenant d'aller sur le terrain pour vérifier si ces prix sont respectés.
Mais est-ce que vous allez souvent sur le terrain?
Exactement. C'est là où je voulais en revenir à Armando. Lorsqu'il y a certains produits qui sont soumis à un certain nombre de contrôles, aujourd'hui, la réalité du terrain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces produits, est-ce que réellement...
Les produits de première nécessité comme le savon, l'huile.
L'huile, par exemple. Hier, on nous parlait de 1600. Aujourd'hui, c'est 1800. Demain, ça sera 3000. Après-demain, ça sera 5000. Personne ne pourra en parler. Même chose avec la farine, même chose avec le savon, même chose avec les autres produits. Mais nous ne sommes pas nouveaux dans ce pays. On a vécu des choses. Et on se rend compte, c'est qu'il faut dire la vérité aux Centrafricains. Il y a un groupuscule de Libanais qui sont au monopole de tout ce qui est commerce en République Centrafricaine. Et que tous nos dirigeants, je le dis, hein, tous nos dirigeants sont dans leur poche. Et qu'eux, ils sont capables de bloquer le stock, de bloquer, de créer la pénurie et d'augmenter les prix. Ça, c'est un jeu qui se fait régulièrement dans ce pays. Et nous, on voit ça. Mais on n'a pas la bouche, on n'a rien, on n'a pas la force, on ne sait même pas comment réagir. Et aujourd'hui, lorsque vous dites qu'il y a certains produits, d'après le décret, sont soumis à un certain nombre de contrôles, mais sur le terrain, il n'y a rien, il y a zéro contrôle. Nous qui partons sur le terrain, nous consommateurs, on se rend compte qu'il y a zéro contrôle. Chacun vend comme il veut. Hier, c'est 1600, aujourd'hui, c'est 1800. Demain, on va nous dire que c'est 3000. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous prenez des mesures pour que cette loi soit à cet décret soit appliqué? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui.
Madame Chantal, d'abord, je vois que vous voulez prendre la parole.
Vraiment, pour mon humble avis, je crois qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi et le travail de contrôle ne se fait pas. Si ça se faisait, au moins, il faut en parler. Il faut en parler parce que là, comme je le disais, hier, c'était à 1600. Aujourd'hui, la voisine à côté, comme elle vend ses petits poissons, je voulais en prendre pour donner à mon chat. Et je vois le petit poisson comme ça à 300 francs. Je dis, mais attends, ça c'est quoi? Elle me dit, mais maman, le prix d'huile a augmenté. Aujourd'hui, j'ai acheté l'huile à 1800. le litre. Et là, ça joue sur moi. Et même les prix des poissons, tout ce qu'on achète, c'est cher. Il faut réduire la quantité pour nous permettre également de rentrer, d'avoir des bénéfices. Sinon, on est là pour travailler pour rien.
Mais on parle d'un laisser-aller qui s'installe et chacun fait ce qu'il veut. À qui profite cette pratique, M. Paitilet?
Je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, pour les produits de grande consommation comme l'huile, comme la farine de blé, vous n'avez pas un importateur qui est capable aujourd'hui d'amener 50 000, 100 000 tonnes que vous pouvez trouver dans son entrepôt.
Mais est-ce une raison d'augmenter le prix?
Écoutez, j'en viens. Aujourd'hui, nous avons le secteur informel. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ce secteur-là pour importer. Et c'est difficile pour mettre la main sur ces gens. Vous pouvez être au PK26, par exemple. Vous voyez un véhicule qui rentre dans la ville de Bangui. Vous prenez les informations. Mais c'est au nom d'une personne, d'un individu, que vous ne maîtrisez même pas là où elle se trouve.
Comment ça?
Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités.
Donc ça veut dire la chaîne du contrôle, vous l'avez déjà dit, hein, vous parlez des ministères ou bien des gens qui se trouvent sur les barrières, la gendarmerie, la police, la douane, eau et forêt, etc. Et vous, au niveau du commerce, tout ce monde, ce que vous avez appelé comme importateur, ça vous dépasse et vous n'arrivez pas à les contrôler ou à les détecter.
Je vous dis, quand le véhicule, par exemple, comme ce que je viens de le dire, c'est quelqu'un que vous ne maîtrisez pas là où il se trouve. Le véhicule rentre dans la ville.
C'est extrêmement dangereux.
Le véhicule rentre dans la ville. Et maintenant, ça va directement chez le commerçant. Et c'est un peu difficile pour le ministère du Commerce de maîtriser ces gens pour essayer d'homologuer les prix, comme je vous l'ai dit. Ah. Et donc, voilà
les réalités. La douane est pointée du doigt.
Bien sûr, je ne pointe personne.
Dans la réalité, donc, le contrôle.
C'est vous qui le dites. Et voilà, ce sont les réalités que nous vivons aujourd'hui.
Ça c'est au niveau du ministère.
Parce que si vous avez quelqu'un qui est rentré, qui est opérateur économique, qui a son siège, qui a son entrepôt, il arrive avec les marchandises. Nous avons les services de contrôle qui arrivent pour vérifier le stock. Nous avons un service de contrôle et d'approvisionnement et de distribution qui est là. Nous avons le service d'homologation de prix. Mais si vous arrivez chez l'importateur, vous ne trouvez rien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous arrivez chez ceux qui devaient le faire, mais vous ne trouvez rien, qu'est-ce que vous pouvez faire?
S'il vous plaît, vous êtes représentant du ministère du Commerce et vous posez ce genre de questions? Non, ça signifie que, il n'y a pas de traçabilité.
Il n'y a pas de sérieux.
Mais vous ne pouvez pas
seulement... Mais comment, étant représentant du ministère du Commerce, vous dites que non, un individu qui vient avec peut-être un conteneur de marchandises et puis vous ne le maîtrisez pas? Mais c'est extrêmement grave.
Le monsieur vous parle de la réalité.
Ce sont des réalités du commerce.
Oui, parce que comme il le dit, il y a des individus qui font ce travail-là, mais quand leur véhicule rentre, ça disparaît, ça va
dans la nature. Donc c'est une mafia douanière, une mafia au niveau de la douane.
C'est ça que je dis, que c'est la douane qui est pointée du doigt dans ce cas.
Il y a une terrible fraude douanière.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Non, il n'a pas osé pointer la douane, mais nous,
vous savez, ce sont les réalités que nous vivons. Et aussi autre chose, le ministère du Commerce
n'a même pas de moyens de travail.
Hein. Le ministère du Commerce n'a même pas de moyens de travail. Vous n'avez pas de véhicule pour vous déplacer. On vous appelle, on dit, voyez, il y a quelque chose ici. Mais avec votre mérite de salaire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Prendre une moto avec tous les risques pour aller voir vérifier une information. C'est impossible. Ouais. Même notre directeur de cabinet n'a pas de véhicule.
Et pendant ce temps, les douaniers ont des V8.
Voilà. Donc, il y a certains ministères même que vous voyez. Un attaché de cabinet du ministre a un véhicule. Il y a les besoins qui se font ailleurs. Mais ce sont des réalités que nous vivons.
Ah oui.
Donc voilà à peu près le décor de ce
qui se passe. Mais en dépit de vos réalités, de vos difficultés rencontrées,
le centrafricain lambda qui en souffre.
Il n'arrive pas à comprendre, c'est le consommateur. Oui. Voilà. C'est le consommateur. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Tout le monde se plaint. N'en parlons pas pour nos frères, nos concitoyens qui sont dans les régions. C'est le pire de ce que nous vivons aujourd'hui.
S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Hein. Vous êtes représentant du ministère du Commerce. Je pense que votre chef de département rencontre souvent les députés au niveau de la représentation nationale. Tous les problèmes que vous venez d'exposer ici, est-ce qu'un jour, elle a eu justement à exposer ça au niveau de la représentation parlementaire?
Je suis qu'un chef de service de la concurrence et de prix. Je ne participe ni à la réunion de cabinet, ni à des réunions qui se font au niveau de l'Assemblée des institutions de la République. Donc, peut-être le journaliste pourra continuer ses investigations pour déceler ce qui se passe, pour sur la place publique.
Oui.
Voilà.
Mais certains membres du gouvernement affirment que le pays vit en ce moment les conséquences de la guerre en Ukraine, et c'est ce que M. Karl venait de nous dire. Et si cela s'avère vrai, ça veut dire que le pays n'a pas de stock de sécurité qui, en principe, s'étend sur 6 mois, monsieur.
Oui, effectivement. Je crois que la crise ukrainienne n'est que une crise conjoncturelle. Je crois que peut-être dans les jours à venir, dans les mois à venir, on espère que cette guerre va finir. Et nous savons que même nos importateurs, ils importent de l'Ukraine, ils importent de la Pologne, le lait en poudre, le blé. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on utilise le blé un peu partout pour la fabrication des spaghettis, des phosphatines, du pain. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent aujourd'hui sur cette crise. Qu'allons-nous faire ? Il y a d'autres pays qui utilisent aujourd'hui même la farine de manioc pour fabriquer du pain, pour compléter. Mais nous avons un pays béni de l'eau. Nous avons un pays qui dispose de plus de 15 millions d'hectares de terres arables. Mais qu'est-ce que nous attendons du génie centrafricain ? Nous avons des chercheurs. Allons-y chez eux. Nous avons même l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui dispose d'une banque de données de plus de 80 millions de brevets qui sont tombés dans le domaine public, que nos chercheurs, que nos ingénieurs peuvent utiliser pour trouver des solutions à la crise que nous avons. Je crois au génie centrafricain.
Mais est-ce qu'on est déjà, M. Kianzé, dans la crise en tant que tel, vous qui êtes économiste pour l'instant ?
S'il vous plaît,
on parle de la flambée ou on parle d'une crise ?
C'est vrai qu'il y a la crise, mais la répercussion n'est pas encore si immédiate telle que nous sommes en train de vivre. Moi, j'appelle ça, c'est du banditisme, ce que nous vivons actuellement. C'est du banditisme. Même en Europe, les gens arrivent encore à gérer. Ceux où normalement ils doivent vraiment subir là. Eux là-bas, ils arrivent à gérer encore. Mais comment se fait-il que nous qui sommes un peu trop loin ici, déjà on est si vite touchés ? En fait, c'est juste des excuses. Et moi, j'appelle ça du banditisme que les gens sont en train de faire. Par exemple, l'exemple du carburant. Aujourd'hui, on dit non, c'est la crise en Ukraine. Non, c'est sinon cela. Non. Mais c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Il faut que les gens nous disent un certain nombre de vérités. J'ai des connaissances qui travaillent dans les stations. Ils nous disent qu'ils ont le carburant, mais ils demandent qu'on puisse leur donner 50 000 litres. Ils arrivent à Socaps, on leur donne seulement 5 000. Et ils viennent seulement, tu vois, seulement le matin, c'est fini, ils sont là. Elles croisent les bras, elles regardent. Ah, pourquoi ces jeux ? Aujourd'hui, on parle par exemple de la brasserie Mokaf. Ils ont augmenté les prix de la bière. Et après, on nous dit que non, le malt a augmenté. Mais est-ce que le Mokaf s'est fait avec le malt ? Il y a d'autres produits qui ne sont pas faits avec le malt. Mais le malt, là, ça a augmenté à quel moment ? Et pourquoi c'est maintenant ? Nous, au quartier, bon, je dis ce que moi j'entends au quartier. Au quartier, les gens nous disent que c'est un complot. C'est une organisation, c'est des ententes entre le système en place et la brasserie. Le prix augmenté, là, c'est partagé entre la brasserie et l'équipe dirigeante, le système en place. Donc, c'est ce que nous, on entend au quartier. Est-ce que c'est la réalité ? Mais en réalité, la crise ne devrait pas nous impacter si vite comme ça. C'est pas ça.
Monsieur Kianzé, je vous invite, quand vous avez déjà évoqué la question de la brasserie et surtout la hausse des prix, je vais vous inviter tout à l'heure à écouter le cri de cœur des consommateurs de bière. Le prix ne cesse d'augmenter et les Centrafricains ne comprennent pas pourquoi le gouvernement ne dit rien jusqu'à présent. Alexia Félix Ngandi, reportage.
Des consommateurs mécontents ne comprennent pas pourquoi le prix de la bière a augmenté. En attendant, ils sont obligés de réduire leur consommation.
Quelqu'un comme moi, je prends 3 ou 4 bières. Subitement, le prix a augmenté. Donc la consommation se diminue pour que la brasserie revoie ce qu'il y a fait. Et puis le ministère du Commerce aide aussi la population qui souffre.
Auparavant, je peux boire 5 à 6 à 7 bouteilles de Cassel. Maintenant, je peux boire seulement 2 parce que le prix de Cassel a augmenté. Presque à 1000 francs, à 950 même. Je suis obligé d'aller au bout sur mon vin de palme.
Les grossistes qui ont commencé à appliquer ces nouveaux tarifs indiquent avoir se conformé au texte du ministère du Commerce. Cyril Doté, secrétaire général de l'Association des distributeurs en gros de boissons en République centrafricaine.
Nous ne pouvions en aucun cas refuser une augmentation quand elle est validée par le ministère du Commerce. Le prix homologué d'un casier de Castel, c'est 8350. De 33, c'est 7950. De Mokaf, c'est 7200.
Dans une réunion ce mercredi à Bangui, le directeur général de la Mokaf, l'unique brasserie de la République centrafricaine, a donné des explications sur cette hausse en présence de quelques grossistes et consommateurs, Alain et Rébi.
Donc une simple illustration, c'est effectivement le malt, une augmentation de plus de 27%, mais aussi des coûts de transport qui ont explosé. Au-delà de ceci, Nous avons aussi des coûts qui sont étroitement liés aux emballages. Nous avons supporté des coûts et des surcoûts depuis 4 ans. Donc, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'augmenter nos tarifs au mois de mars dernier. Donc, tout simplement pour vous dire que cette augmentation a été faite en toute transparence avec le ministère de tutelle et les grossistes, qui a donc donné lieu. Elle s'est arrêtée signée le 15 mars et l'application que nous avons jugée bon de faire le 21 mars.
Le ministère du Commerce convoqué dans cette réunion n'a pas été représenté. Aucune communication n'a été faite autour de cet arrêté qui ordonne l'augmentation du prix de la bière. Inefficace devant cette hausse de prix, Marcel Mokwapi de l'Observatoire centrafricain de la consommation appelle les consommateurs à d'abord jeter un coup d'œil dans leur poche.
Les prix n'ont pas attendu aujourd'hui pour vraiment inquiéter les consommateurs. Avant même le Covid-19, les prix ont déjà augmenté par endroits à 800, à 900, à 1000 francs.
Nous disons aux consommateurs, si vous savez que votre pouvoir d'achat ne peut pas vous permettre de prendre 4 bières par semaine comme vous avez l'habitude, si le prix a augmenté, bien réduisez, prenez une bière.
Selon les nouveaux tarifs, la bouteille de 65 centilitres de Mokaf s'achète en prix de détail à 675 francs. La bouteille de 33 à 750 et celle de Castel à 780 francs. Ali Rock Bissengue, président de l'Association de défense et d'information des consommateurs en République centrafricaine, appelle le ministère du Commerce à surveiller les prix sur le marché.
Alexia Félix Ngwandji, dans le débat politique de Radio Ndekeluka, eh bien, vous comprenez aisément que pour les bières, c'est le gouvernement qui a augmenté le prix. Mais est-ce que le ministère du Commerce a informé la population sur ces faits, M. Paitilet?
Monsieur Armando, je crois que c'est un déficit de communication, comme vous venez de le dire. Le gouvernement n'a pas beaucoup communiqué, le ministère du Commerce n'a pas beaucoup communiqué sur cette augmentation. J'ai sur mes yeux ici l'arrêté qui a été signé par le ministre le 15, mais ce n'est pas le prix qui se pratique aujourd'hui sur le terrain. Le ministère du Commerce est en train maintenant de faire des investigations. Il y a des prix qui sont pratiqués par les grossistes qui ne sont pas les mêmes qui figure sur l'arrêté qui a été signé le 15 mars 2022. Comme je le disais tout à l'heure, dans votre reportage, vous l'avez su, ce n'est pas seulement en République centrafricaine que c'est depuis 2020-2021, avec les conséquences du Covid-19, les prix des transports ont explosé. Vous savez que le monde entier était mobilisé pour le Covid-19. Ça fait que, si je vous donne un exemple, un conteneur de 40 pieds qui quittait la Chine pour le port de Douala, qui coûtait à l'époque 3 000, 3 500 $, s'est retrouvé à 10 000 $. Donc, vous voyez, c'est tout ça là qui a amené nos partenaires, que sont la MOCAF, pour essayer d'augmenter le prix. Mais c'est nous, ministère du Commerce, qui devons communiquer sur cet aspect pour informer la population.
Sans vouloir vous couper, tout juste pour aborder dans le même sens que vous, oui. Effectivement, vous avez parlé de Covid-19 avec la hausse des prix. Mais non, mais l'OMS a donné beaucoup de milliards à la République centrafricaine, justement pour pallier, pour gérer cette situation de Covid. Où sont passés ces milliards pour équilibrer? Où sont passés ces milliards donnés par l'OMS aux autorités centrafricaines? Des milliards. Voilà.
Moi, je suis du ministère du Commerce et de l'Industrie. Hein. Je ne suis pas du ministère des Finances.
Vous avez évoqué l'aspect Covid.
Justement. Mais ce sont des réalités qui nous ont été fournies par nos partenaires de MOCAF. Donc,
Madame Chantal,
pour justifier le financement du Covid-19.
Le problème qui se passe, c'est un problème de communication, comme l'a souligné tout à l'heure. On nous met, nous les consommateurs, on nous met devant les faits accomplis. Or, quand il y a un problème comme ça, il faut en amont sensibiliser, informer le consommateur pour qu'il prennent ces dispositions, mais quand on est aussi mettre un accent sur le prix qui doit être pratiqué sur produit.
Monsieur Patilet était en train de donner le prix normal. Ça n'a pas été donné. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Madame Chantal, sur votre permission, oui. Est-ce que monsieur peut nous donner le prix de la bière en principe, ce qui devait être vendu?
Oui.
Je crois que j'ai sur les yeux ici pour la. Pour la Castel bière de 65 litres, le prix qui devait être pratiqué au niveau des grossistes, c'est 8 350. Pour la Castel 33 centilitres, c'est 11 000 francs CFA. Pour la MOCAF, c'est 7 200 francs. MOCAF 65 centilitres, excusez-moi. Mon CAF 33 centilitres.
Centilitres, c'est quoi? Grand modèle, petit.
Grand modèle, c'est 65 centilitres, ce qui est à 7200. La Mocaf 33 centilitres, 24 bouteilles, c'est à 8650. La 33 Export 65 centilitres, c'est-à-dire grand modèle, c'est à 7950. 33 Export petit modèle, c'est à 9850 francs. Pelfort 65 centilitres, c'est à 9600. Dopel 65 centilitres, c'est à 9300. Pour le jus, la gamme Dino 60 centilitres, 12 bouteilles, c'est 4998. Dino, c'est 30 centilitres, c'est 6198. Soda 30 centilitres, c'est à 3656. 2XL, c'est à 10510. Je crois que comme
et maintenant, si ça revient au niveau du détail, par exemple, un détaillant, lui peut vendre combien?
Un détaillant, il devait vendre la Castel bière de 65 centilitres à 780 francs.
Autre 800.
800 maximum.
Ouais. 800. Mais maintenant, c'est 900.
Maintenant, la Castel 33, c'est petit modèle, c'est à 515 francs. La Mocaf 65 centilitres, 12 bouteilles, c'est à 675 francs. Maintenant, 33 centilitres Mocaf, c'est à 410 francs.
Ça veut dire que c'est 500, on peut...
Voilà.
450.
Donc, je pourrais vous remettre un document public.
Oui.
Vous pouvez avoir aussi une copie.
Oui, on peut avoir la copie, mais on va faire comment, puisque ce n'est pas à nous d'aller sur le terrain, contrôler et vérifier. Exactement. C'est ça le vrai problème. Voilà. Oui, Lazare, vous voulez parler?
Oui, en fait, c'était juste pour compléter ce que madame disait tout à l'heure. C'est vraiment un problème de contrôle. Lorsque ces prix sont fixés, que... On ne communique pas dessus. Deux, il n'y a pas vraiment les agents sur le terrain pour faire le contrôle, mais c'est le consommateur qui souffre. C'est le consommateur qui souffre parce qu'il est obligé de... Il veut consommer. Il est obligé de payer au prix où le commerçant vend. Et le commerçant, lui aussi, il vend pour gagner. Donc, il fait ses petits calculs pour voir... à combien ils peuvent vendre pour
et puis le transport, si vous voyez, ça fait 700, ça augmente
également,
effectivement un peu de transport, et voilà, c'est normal qu'on envoie
l'électricité,
voilà, très rapidement
rafraîchir la bière, peut-être maximum 850, 900 quand même
l'électricité malgré les nombreux délestages, hein.
Oui, bien sûr.
Un autre aspect dans ce débat, Marcel Mokwapi, responsable de l'association des consommateurs, les exhorte à réduire leur consommation. Donc ça veut dire que tout est ficelé et pas d'issue, Madame Chantal.
Oui, mais là, les dés sont jetés. Et comme il l'a dit, maintenant il faut voir la poche. Si tu as l'habitude de consommer 4, là, comme c'est parti là, on ne va pas faire marche arrière. Ça a toujours été comme ça. Quand un prix est lancé, c'est le prix qui va... Ouais. Ça va aller comme ça. Donc le consommateur doit maintenant...
Et le fonctionnaire voir...
Les fonctionnaires font partie des consommateurs. Ça dépend du pouvoir d'achat de tout un chacun. Ça dépend du salaire que les gens perçoivent.
Le salaire reste
stable. Nous n'avons pas une classe intermédiaire. Mm-hmm. Vous avez les nouveaux riches là, qui sont au plafond, et vous avez la basse classe. C'est dommage, il n'y a même pas une classe intermédiaire. Si bien que, avant la fête des mères, je vous dis que la Castel ou la 33 va monter même à 1500. Personne ne va protester. Mais comme il y a ce qu'on appelle les boissons de substitution, quand vous rentrez dans le microcosme de la société centrafricaine, allez dans les quartiers, vous avez le vin de palme, vous avez certaines liqueurs.
Dorabunga.
Vous avez même certaines liqueurs importées, mais interdites. Des liqueurs interdites par les autorités.
Mais ça circule au-dessus de tout le monde.
Puisque certaines forces de l'ordre sont complices.
Ça a été interdit dans le document, mais voilà. En réalité, ça sillonne les villes.
C'est ce que j'étais en train de dire. Nous vivons dans un système de mafia, un système terrible, où ceux qui pourront se taper deux casiers en deux secondes, ça va être certains fonctionnaires. Pas tous les fonctionnaires, certains fonctionnaires, les dignitaires, ceux qui sont liés au régime, au pouvoir, parce qu'ils ont de l'argent facile. Mais le fonctionnaire qui gagne l'argent à la sueur de son front, qui est surendetté, qui a un pouvoir d'achat qui risque de disparaître bientôt, mais ceux-là seront obligés soit de payer en fonction de leur poche, soit de se référer aux boissons de substitution.
Mais si aujourd'hui, comme vous l'avez dit, oui, Madame Chantal, rapidement, je vous en prie.
Non, je laisse d'abord Karl terminer.
Il a déjà terminé.
Je veux rebondir sur le problème de carburant que mon fils a souligné tout à l'heure. C'est un problème extrêmement grave. On nous fait comprendre qu'il n'y a pas de carburant, il y a pas de problème de carburant. Mais en réalité, nous souffrons de ce manque de carburant. Et les prix, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Hein. Les taxis-motos augmentent leur prix. Ils font le double de... Oui,
pour parce qu'ils achètent le litre à 1200.
Mais c'est un secteur vraiment incontrôlé. Mais au niveau de bus, taxis et bus, c'est contrôlé. Hein, ils gardent leur position.
Comment on peut nous faire comprendre que le ministre nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais nous ne sommes pas des aveugles. Pourquoi, quand il y a... s'il n'y a pas de problème, pourquoi une longue queue à la station pour attendre le carburant? Pourquoi hier, on a fait le tour, mon véhicule a fait tout le tour et a épuisé le fond de carburant que j'avais dans mon véhicule pour chercher le carburant? On n'en a pas eu. Alors, c'est un problème ou ce n'est pas un problème?
Mais de tout ça, augmentation des prix, salaire n'augmente pas, quelles seront les conséquences, Monsieur Kianzé?
Les conséquences, c'est le Centrafricain qui sera ruiné, réduit à néant, piétiné au pied. Les gens vont mourir, les gens vont disparaître. Et c'est ça les conséquences. Le Sud-Africain ne sera pas fier d'être Sud-Africain parce qu'il ne, il ne va pas vivre. En fait, lorsque les prix augmentent, le revenu ne bouge pas. C'est un grand problème. C'est un grand problème parce qu'il n'y a pas équilibre. Toujours les prix augmentent, mais le revenu reste. Et du coup, ça déséquilibre l'économie. Et lorsque le consommateur n'est pas équilibré, mais c'est le système qui sera attaqué, le système qui sera déséquilibré. Mais ça, c'est toujours au profit d'un groupuscule, d'un groupe qui tire profit. Parce que ce groupe arrive à s'en sortir avec ce qu'ils ont, avec d'autres sources de revenus que nous ne maîtrisons pas. Mais eux, ils ne se plaignent pas. C'est ça le grand problème.
On écoute d'abord, M. Paetilet, les conséquences de tout ce qui se passe actuellement. Sur les consommateurs, bien sûr.
Sur les consommateurs. Moi aussi, je suis consommateur. Je crois que nous n'arriverons plus à satisfaire nos besoins, même les besoins vitaux. Et c'est le problème que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Vous savez que ce sont les gens qui ont des hautes fonctions, qui gagnent plus de salaires, qui ont des avantages de responsabilité. Mais le petit fonctionnaire qui est là, comment il va faire? Le petit consommateur, celui qui ne travaille même pas. Je crois que ça va aller jusqu'au niveau des foyers même. Il y aura des dislocations au niveau des familles. Exactement. Nos enfants, nous n'arriverons pas à les scolariser aujourd'hui.
Le panier de la ménagère.
C'est difficile.
Même les légumes au-dessus du marché.
Parce que c'est tout le monde qui est touché, tous les secteurs qui sont touchés. Et nous devons prendre nos responsabilités en tant que Centrafricains, en tant que dirigeants, pour essayer de trouver des solutions à ce problème que nous vivons aujourd'hui.
Monsieur Karl, rapidement, blague.
Ok, concernant les conséquences de cette inflation, entre guillemets, je le dis bien avant d'en parler, je vais revenir sur l'aspect du carburant. Le ministre de l'Énergie avait beaucoup parlé sur la plupart des médias pour dire que non, il n'y a pas de crise de carburant. Il y a la campagne fleuve et puis il y a la campagne route. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je sillonne. Je discute avec les conducteurs de taxi-moto, de taximan. Ils disent que non, c'est une mafia instaurée, gérée par les hautes autorités du pays. Vous amenez un bidon pour prendre de l'essence pour 10 000. Il faut donner 1000 francs aux pompistes. Si c'est de l'essence pour 5000, il faut donner 500. Et il y a des réseaux dans les quartiers, tout le monde le sait. Il y a des secteurs là, je vais pas parler de ça ici, mais vous rentrez dans une ruelle, ça sent le carburant, alors que c'est pas un quartier qui est habilité à abriter des produits, des hydrocarbures. Non, donc c'est une mafia. Je pense que le ministre de l'Énergie s'est foutu de la gueule des Centrafricains. Ce n'est pas sérieux. Et l'impact d'une inflation qui n'est pas contrôlée. Pas trop loin de chez nous, il y a quelque temps, à cause d'une hausse du pain, je pense qu'un général tout-puissant a été foutu à la porte. Rien qu'à cause de la hausse du pain. Les Centrafricains, souvent, quand on est à l'extérieur, ou ceux qui sont à l'extérieur, disent que non. Pourquoi les Centrafricains sont laxistes? Pourquoi, avec tout ce que vous subissez, on vous viole, on vous pille, on vous tue, mais pourquoi vous ne vous soulevez pas? Mais concernant les produits de première nécessité, si cette inflation n'est pas maîtrisée, je vous assure que la révolution là, ne se fera pas avec des armes. Ça sera le peuple qui sortira par rapport à la révolution française.
Non, on n'appelle pas ici à la révolte.
Je n'appelle pas, je parle des conséquences.
Oui, les conséquences. Oui.
Je parle des conséquences.
Exactement, c'est-à-dire qu'il faut prendre
les mêmes causes. S'il vous plaît, les mêmes causes, placées dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets. Quelqu'un qui a faim n'est plus, comment on appelle, contrôlable.
Prenons à présent des auditeurs de Patara d'ici d'ailleurs qui réagissent en ce moment.
Bonsoir à tous les auditeurs de la Nune de Kaluka. Mon opinion par rapport à cette flambée de prix des denrées alimentaires sur le territoire centrafricain, moi je pense que cette flambée du prix est due à cette guerre russo-ukrainienne. C'est ça les effets. Même ici, au niveau de l'Europe, on a même commencé à sentir un peu les effets. Par exemple, même l'Italie, qui est le premier producteur de tomates, elle ne produit pas comme auparavant. Et on a commencé, même on a senti même les effets ici. Alors, ce que le ministère du Commerce doit faire, premièrement, nous, d'abord, au niveau national, on doit, le gouvernement sud-africain doit mettre l'accent beaucoup plus sur l'agriculture. On doit vraiment produire beaucoup plus et faire nourrir les centrafricains. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des cas, la RCA exporte tout de l'extérieur. On ne produit pas assez, on exporte tout. Et une fois qu'il y a une crise alimentaire, par exemple cette guerre qui est en train de passer entre la Russie et l'Ukraine, du coup, nous subissons les effets. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est la mise en application, la communication. Moi, je me suis rendu compte que le gouvernement ne communique pas beaucoup plus. Un exemple, si le gouvernement fixe le prix, par exemple, d'une boîte de sardines à 400 francs, mais quand tu vas sur le terrain, on le vend à, on achète à 500 francs. Alors, que faire? On sait que le prix, c'est à 400 francs. Quand tu vas d'une boutique à une autre, tu trouves le prix, ça varie. Parfois, c'est 400 francs. Tu achètes dans une autre boutique, dans d'autres boutiques, c'est 500 francs. À ce niveau, le gouvernement doit communiquer beaucoup plus aux centrafricains, surtout le ministère du Commerce doit toujours communiquer beaucoup plus, de temps en temps, à la radio, sur les différents prix des denrées alimentaires. Il doit mettre à la disposition de tous les centrafricains un numéro vert. Et ce numéro vert permettra à ce centrafricain-là d'appeler. Et ils doivent aussi avoir leur agent mobile et qui sont toujours prêts à tout moment. Tant qu'il y a un appel de la part des centrafricains qui est victime, par exemple, de cette flambée ou de cette hausse du prix, peut appeler ce numéro-là et ils doivent intervenir sur le terrain pour faire le constat et mettre la main sur cette personne-là.
Bonsoir, chers auditeurs de Patara de Radio de Kelouka Santafi. Effectivement, comme vous le dites, la flambée du prix, ces derniers temps des denrées alimentaires en SCA, le ministère du Commerce, en réalité, le ministère du Commerce a perdu le contrôle de ce qu'on appelle l'autre, le contrôle du prix. Il y a des produits denrées alimentaires qui sont produits à l'intérieur du pays qui n'a pas subi ce qu'on appelle l'importation de l'extérieur. Mais désolé, avec le non-contrôle du ministère du Commerce qui contrôle les contrôles de prix, les compatriotes ont pu augmenter ces prix-là de leur titelle tout en donnant des prétextes en disant que donc ça c'est un faux problème, c'est la malgouvernance, c'est la malgouvernance qui est à l'origine de ça, qui fait que le ministère du Commerce se désengage complètement de contrôle des prix, des produits qui sont à l'intérieur et ceux qui viennent de l'extérieur qui devaient subir les yeux. Et l'un des problèmes qui se pose, c'est la politique de prévention en matière de produits alimentaires locaux en matière de l'agriculture n'a pas été bien cernée pour qu'on puisse développer les produits locaux, la consommation de produits locaux. Il faut que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités en revoyant aussi un état général de l'agriculture pour voir quel est le meilleur mécanisme pour pouvoir développer l'agriculture en vue d'avoir beaucoup de produits alimentaires, en vue du risque de se flamber des prix.
Voilà, et la réaction écrite rapidement, c'est M. Passema Andiago qui vient de nous envoyer ce texto. La flambée des prix des denrées alimentaires importées a été toujours en partie entretenue par les migrants commerçants grossistes. Il faut centrafricaniser le commerce de produits de première nécessité à l'instar des mesures prises dans les années 60 concernant les débits de boissons et les taxis qui au départ, selon lui, étaient le monopole des Nigériens, c'est-à-dire le ministère du Commerce doit mener une véritable guerre à la corruption qui amplifie les difficultés que rencontrent les consommateurs. Voilà, rapidement, vous avez compris, hein, ce sont les réactions des centrafricains. Monsieur Patilette, vous représentez le ministère du Commerce dans ce débat. Avec tout ce que vous avez écouté, est-ce que le ministère peut actuellement, si on lui met à disposition les moyens qu'il faut pour vraiment vite pallier ce problème?
C'est notre souhait le plus ardent pour que nos autorités, nos partenaires nous écoutent et viennent au secours du ministère du Commerce avec les moyens conséquents pour nous permettre de juguler cette crise-là. On ne va pas l'éradiquer pour l'instant, mais nous allons essayer de réduire, de minimiser quand même les effets de cette crise-là en prenant des décisions courageuses. Notamment, déjà, le gouvernement a déjà pris quelques dispositions pour essayer de créer un comité interministériel de veille pour essayer d'atténuer les effets de l'inflation des produits de première nécessité aujourd'hui. Et nous avons également, au niveau du ministère du Commerce, la cellule des stratégies sectorielles et des projets, qui a un projet qu'on appelle programme d'appui pour la promotion de l'entrepreneuriat urbain et rural. Donc, ce projet est en train de voir avec les producteurs, les coopératives de production d'huile de palme, aujourd'hui, pour essayer de moderniser, avoir des machines pour la production, pour aider de solutionner ce produit. Et aujourd'hui aussi, le ministère est en train de réfléchir pour essayer de prendre des arrêtés pour interdire l'exportation de l'huile de palme. Aujourd'hui, nos usines Savex, SN Osaka ont des soucis pour avoir de l'huile de palme. Et nous avons vu qu'il y a certains compatriotes, certains opérateurs économiques qui exportent de l'huile de palme aujourd'hui. Chacun dans ce domaine essaie de faire ce qu'il peut.
Ça, c'est des solutions à long terme. Mais on parle de l'immédiat.
Maintenant, là, c'est déjà, je crois, dans la semaine, l'arrêté sera pris pour interdire l'exportation de l'huile de palme vers le Nigeria. Ce sont déjà des mesures qui sont déjà prévues. Il y a une cellule déjà au niveau du ministère du Commerce, cellule de crise.
L'exportation.
L'exportation, et non l'import. Mm-hmm. L'exportation. Donc, pour essayer de sauvegarder nos entreprises locales qui emploient des centrafricains, qui achètent chez nos producteurs et qui produisent du savon. Vous savez, aujourd'hui, certains pays utilisent le protectionnisme. Mm-hmm. Quand leurs usines produisent, c'est l'État qui achète pour conserver, parce que personne ne maîtrise le lendemain. Donc, voilà quelques réflexions, quelques pistes que le gouvernement, que le ministère du Commerce est en train de prendre maintenant pour essayer de juguler le cercle. Et constamment, nous serons sur le terrain. Vous savez que depuis presque six ans, on n'arrivait pas à faire les contrôles. Presque 6 ans, nous n'avons pas de moyens de transport, vous n'avez pas de moyens logistiques. Et aussi pour mobiliser les forces de l'ordre pour assurer votre sécurité. Personne ne sait, nul n'est sans ignorer qu'à l'époque, 2-3 ans, on ne pouvait pas arriver au niveau de Miskine pour faire un contrôle. Mais ça fait une semaine, nous avons sillonné toute la ville de Bangui. Ça veut dire que déjà, l'autorité de l'État est en train de revenir. Nous pouvons faire quelque chose pour essayer de juguler cette crise-là. Donc voilà à peu près
ce que vous Lazare.
Oui, merci Armando. De tout ce que les auditeurs ont dit et ont envoyé comme message, j'ai retenu deux choses. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, c'est désolant et c'est au dépourvu ou en défaveur du consommateur. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que il n'y a pas de projection. Au niveau de nos ministères, ce n'est que des pilotages à vue. Il n'y a rien comme prévision. Parce qu'on ne peut pas attendre qu'on arrive à qu'on soit vraiment englouti par la crise avant de prendre des mesures. On ne va pas continuer avec les pilotages à vue. Que ce soit au ministère de l'Agriculture, au ministère de Commerce, au ministère, il y a un comité interministériel mis en place pour faire un travail. Mais que ce comité fasse ce travail. Et depuis que le comité est mis en place, qu'est-ce qu'ils ont produit comme rapport? Qu'est-ce qu'ils ont produit comme résultat? Quel est l'impact de ce comité? Et pourquoi on ne les sent pas? Le terrain, ça ne marche pas. Sur le terrain, le consommateur se plaint toujours. Donc du coup, c'est important que les autorités puissent ouvrir les yeux sur ces genres de choses et qu'au niveau de chaque ministère, qu'il y ait maintenant des prévisions, qu'on puisse anticiper sur les choses au lieu de faire toujours des pilotages à vue.
Madame Chantal, toi Bénin.
Je voudrais surtout par rapport aux produits de première nécessité, demander qu'on aille faire un contrôle dans les dépôts des Libanais. Qui, deux fois, bloquent tout le stock pour faire flamber les prix. Il faut ce genre de contrôle pour faire sortir les produits. Le centrafricain vit mal parce que les moyens de survie, il n'y a pas le pouvoir d'achat est maigre. Mais si on nous prive et que les prix des denrées de première nécessité flambent, ça va être un problème. Le centrafricain se nourrit mal, nous allons tous mourir. Regarde-moi là, je vis comment.
Oui, monsieur Kalblagué.
Simon, la réaction de ces auditeurs nous interpelle. C'est vrai, comme l'a dit mon frère Kianzi, on ne fait pas de la projection, mais nous avons tout ici. Nous avons deux saisons, deux merveilleuses saisons. Nous avons des types de sols vraiment très fertiles. Alors, quand il y aura la pénurie du blé? Parce que je vous dis, nous ne ressentons pas maintenant les conséquences. Mais d'ici septembre, nous allons manquer de farine. Et nos frères libanais qui ont gardé certains sacs de farine de blé dans leur stock, certains seront avariés.
Et on va nous vendre.
Bien sûr, ils mettront ça sur le marché.
Le marché.
Moi, je vais m'inspirer du Rwanda. Il y a un aîné avec qui j'ai échangé et qui m'a parlé du cas rwandais. Le Rwanda a anticipé. Et le Rwanda avec la patate douce. Je pense que nous cultivons la patate douce ici.
Oui.
Avec la patate douce, a réussi à faire du pain. Et quand vous mangez ça, ça a le goût du pain viennois. Wow. Mais si nous, oui, bien sûr. Si nous avons des produits de substitution, il est temps que l'AGDA ou bien l'ICRA ou le département de l'agriculture puisse réfléchir pour justement donner les fonds nécessaires pour encourager les agriculteurs à produire justement les produits de substitution. Concernant le contrôle des dépôts de nos frères libanais, mais vous savez, je vous ai parlé de cette mafia. Vous envoyez des inspecteurs, que ce soit de la douane ou des impôts, automatiquement, ils vont vous dire autre chose.
La corruption,
mais voilà, tant qu'on n'aura pas brisé ce système, tant qu'on n'aura pas brisé cette mafia, il sera difficile justement de proposer des alternatives.
Monsieur Karl Blaguet, monsieur Moïse Patilette, madame Chantal Toabena, monsieur Lazare Kianzi, merci à vous d'avoir participé à ce débat politique. Fin de ce débat d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir pris part avec nous à ce rendez-vous. D'ici et d'ailleurs, nous avons discuté évidemment de la flambée des prix de denrées alimentaires sur les marchés de la République centrafricaine. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radiondekeluka.org. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Mais prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois dans la vie.